l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné, on s'intéresse à un roman. Alors bien sûr, son autrice est du Finistère, elle habite même tout près. Mais en plus, il se trouve que ce roman aborde un sujet douloureux qui traverse chaque année le mois d'octobre, le cancer du sein. Parce que notre invitée a eu ce cancer, elle s'en est sortie heureusement. Le cancer du sein traverse aussi donc ce roman qu'elle a écrit, qui est bien un roman, non pas un témoignage. Ça nous permet d'aborder les sujets de côté, comme on aime le faire dans cette émission. C'est aussi un parcours vers la sagesse, vers un autre rapport au temps qui passe, à la mort. Et c'est un livre plein de positifs. Le livre a pour joli titre « Le souffle de la salamandre ». Il est édité chez Le Lys Bleu et son autrice donc est notre invitée, c'est Gwenaëlle Lequinf. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Véronique.
Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce roman et pourquoi un roman et pas un témoignage ?
Alors je trouvais que de passer par la fiction, ça permettait de dire beaucoup plus de choses, d'aller plus loin. Et je trouvais que mon cas était un simple cas parmi tant d'autres. Du coup, je trouvais plus intéressant de passer par la fiction. Et j'ai choisi d'écrire ce roman pour allumer une petite veilleuse les jours sombres pour les personnes qui traversent ça et pour tout le monde de manière générale, parce qu'en effet, ça traite du cancer, mais pas que. Ça questionne surtout sur le sens de la vie, sur ce qu'on y met, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est. Et voilà.
C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce roman. Hein. Franchement, c'est très beau. Enfin, là, je l'ai lu, hein, parce que voilà, quand j'aime pas inviter les gens, je n'ai pas lu vraiment les bouquins. Vous écriviez sinon avant, enfin, vous aviez déjà écrit peut-être des fictions
Oui, j'écrivais déjà. C'est la troisième fois que j'envoyais un manuscrit. Celui-ci, il a été pris. Comme quoi, il faut persévérer et croire en ses rêves. Et voilà.
Et donc, juste pour avoir une idée, c'était quoi les autres romans
Alors, il y en avait un, c'était un recueil d'histoires pour enfants. Et parce que j'ai beaucoup voyagé, et du coup ça retraçait un peu des animaux à travers plein de pays du monde. Et l'autre, c'était un roman que je suis en train de reprendre intégralement, de réécrire intégralement, parce que j'ai beaucoup progressé dans ma manière d'écrire. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, et du coup je le reprends entièrement en ce moment.
Oui, je précise aussi que c'est vraiment bien écrit, enfin, c'est vraiment agréable à lire. Hein. Donc ouais, vous aviez quand même un rapport à l'écriture et à la fiction déjà, parce que c'est ça aussi, faire une fiction, c'est quand même plus difficile, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve ça plus facile que de parler de soi. Maintenant, dans chaque fiction, il y a une partie de soi, forcément. Mais non, personnellement, je trouve ça plus facile. J'aime inventer des histoires et oui, j'écris depuis longtemps. Et le cancer, justement, m'a permis de réinterroger... qu'est-ce qui faisait sens pour moi et l'écriture, j'ai pu le remettre vraiment au centre de ma vie, m'organiser pour que l'écriture soit un temps important dans mes semaines.
Alors donc c'est bien une fiction, mais il y a quand même, vous y avez mis pas mal de vous malgré tout. Donc vous avez un personnage principal qui s'appelle Julie, qui est jeune, qui a 32 ans et qui surtout exerce un métier, c'est ça aussi qui est intéressant, d'aide à domicile, qu'elle a choisi, enfin elle a choisi de faire ça. Et elle décrit très précisément ce métier, c'est ça qui est assez fort, c'est vraiment en plus une sorte de témoignage sur ce métier d'aide à domicile. Donc pourquoi vous avez choisi déjà qu'elle fasse ce métier, pourquoi ce métier-là, etc.
Alors moi initialement je suis éducatrice spécialisée, mais j'ai eu l'occasion d'être aide à domicile pendant une année. J'ai été très frappée de voir à quel point ce métier n'était absolument pas reconnu, alors que les femmes font un travail extraordinaire. Je dis les femmes parce que ce sont essentiellement des femmes, il y a très très peu d'hommes. Donc je trouvais ça important de valoriser ce métier. Et aussi, j'ai choisi de présenter ce métier, car c'est le public dont s'occupe Julie, c'est un public qui est un peu, j'ai envie de dire, invisible. Toutes ces personnes âgées qui disparaissent du monde des vivants, qui sont ni mortes ni vivantes. Et ça faisait vraiment un parallèle avec ce que Julie allait vivre. Pour moi, les personnes âgées, les personnes malades deviennent exclues. Et dans cette espèce de monde parallèle... où il y a beaucoup de solitude, de l'isolement. Et donc j'avais envie de faire le parallèle entre les deux et que ces deux personnages se rejoignent avec des problématiques très différentes, mais que ces deux personnages se rejoignent.
Certaines de ces personnes dont s'occupe Julie ne sortent jamais de chez elles, en fait. Enfin, c'est le cas, c'est une réalité que vous avez croisée, ça, tout ça.
Oui, tout à fait.
Donc les descriptions, finalement, des soins qu'elle apporte aux personnes, là, à chaque fois, c'est des situations que vous avez plus ou moins vécues. Enfin...
Alors oui, il y a des personnes qui sont vraiment... Enfin, j'ai forcément transformé, mais il y a des personnes... que j'ai réellement rencontrées, que j'ai choisi de présenter ici, en transformant un peu. Et il y a des personnes que j'ai inventées en regroupant plein de situations différentes pour pouvoir parler ce qui me semblait être important d'être parlé. Et donc j'ai créé d'autres personnages pour pouvoir parler de tout ça, mais en piochant chez plein de personnes différentes que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec ce métier-là.
Et c'était quoi, par exemple, que vous vouliez mettre en exergue ? C'était plutôt des personnalités de gens ou c'était plutôt des situations ?
Plutôt des situations et puis montrer justement ce métier d'aide à domicile, ce que les femmes vivent, ce qu'elles apportent au quotidien et les difficultés. Est-ce que c'est vraiment un métier difficile et qui n'est absolument pas valorisé, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, j'avais envie de montrer ça avec toutes ces situations qui sont très vraies. Enfin, c'est pas fantasmé, c'est pas. Alors, il y a une part inventée, certes, mais la réalité de ce que c'est ce métier-là, il est vraiment relaté tel que c'est.
C'est un métier aussi où le rapport au temps a, je crois, malheureusement, pas mal évolué. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, quand vous allez chez les gens pour vous occuper des personnes, vous n'avez pas forcément, vous avez quoi, une heure ou moins? Et enfin, c'est très minuté finalement tout ça.
C'est ça, il n'y a pas du tout de crédit. Il faut que les temps soient raccourcis au maximum. Donc, c'est beaucoup, à un moment, il faut réussir soi aussi à rester très humaine et à voir que le plus important dans tout ça, c'est prendre soin de la personne. Et alors qu'on est poussé à aller le plus vite possible. Et au final, si on se fait happer par ça, la personne n'a plus sa place d'humain et il n'y a plus cette relation de cœur qui est importante.
Parce que quand vous alliez chez une personne, est-ce que vous vous imposiez de faire un moment où juste vous discutiez avec la personne, où vous n'étiez pas forcément en train de nettoyer le frigo ou la cuisine, ou est-ce que vous faisiez les deux en même temps? Comment vous faisiez concrètement?
Non, bien sûr, il y a un temps très important, surtout par exemple quand on fait de l'aide à la douche, où c'est bien sûr toute la corporalité, la personne est nue devant une presque étrangère. Donc tout ça me semble indispensable de prendre un temps avant, de mise en confiance. Souvent les gens ont un sentiment de honte de devenir à ce point dépendant, de se faire laver. Il y a des gens qui peuvent dire des choses, j'ai l'impression d'être un animal, ça va très loin dans les propos, parce que c'est des ressentis très forts que les personnes ont. Donc c'est indispensable, pour moi c'est indispensable, mais vraiment indispensable ce temps-là, d'humain à humain, d'âme à âme, de cœur à cœur, où on prend le temps d'être ensemble et pour après pouvoir s'occuper du corps, en prendre soin et tout ça dans le respect de la personne et dans le respect de sa lenteur.
Et c'est ce qui fait peut-être la richesse de ce métier. C'est-à-dire que Julie, votre personnage, elle a choisi de faire ça. Sa mère lui dit « Quand est-ce que tu feras autre chose ?» Et elle résiste. Et donc, c'est que vous aviez aussi envie de dire que c'était un beau métier, je suppose.
C'est un beau métier, vraiment, bien sûr. À partir du moment où il y a de l'humain, de toute façon, c'est forcément un beau métier.
Et on a des gratifications. On passe des bons moments, quoi.
Des beaux moments, oui, c'est des rencontres humaines avant tout, en fait, c'est des échanges humains. Et ces personnes âgées qui sont mises au banc de la société, elles ont tellement à nous apprendre. Donc oui, c'est des magnifiques rencontres, oui.
Et vous avez fait ce métier, c'était après votre cancer ou avant votre cancer?
C'était avant, et j'ai su que j'étais malade quand je travaillais en tant qu'aide à domicile.
Ça, c'est comme votre personnage. Et qu'est-ce qu'elle vous avait appris déjà, votre expérience d'aide à domicile, avant le cancer? Vous aviez déjà appris quelque chose ?
Sur cette notion du temps, justement, il y avait beaucoup de questionnements sur cette vie qui va toujours trop vite, sur la notion de rentabilité avant tout. Et je me posais déjà énormément de questions sur qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait qu'on est humain et pourquoi on se lève tous les jours et comment résister à tout un fonctionnement où on se fait happer petit à petit et comment réussir à créer des parenthèses de bien-être pour tout le monde et qui fait sens.
Et en plus, alors ce qui est intéressant dans le parallèle, c'est que Julie, en devenant malade, va devenir elle aussi aidée. Il y a des moments où elle est trop faible, ou alors quelqu'un l'emmène faire les courses. C'est ça aussi.
C'est exactement ça. Je montrais comment la relation d'aide s'inverse. Et donc il y a un deuxième personnage qui est principal.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc Émilienne, femme centenaire. Et donc au début, c'est en effet Julie qui aide à domicile de cette femme et la relation d'aide s'inverse complètement. Et au final, c'est cette femme âgée avec son expérience de vie à elle qui va lui prendre la main et l'accompagner sur son chemin et l'aider à évoluer et à vivre sa mutation profonde, sa mutation intime.
Et alors cette femme, donc Émilienne, il faut qu'on revienne un petit peu sur elle. Qu'est-ce qu'elle, j'imagine qu'elle n'existe pas vraiment parce qu'en plus elle a un petit côté magicienne. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous? Pourquoi vous avez voulu en faire ce personnage et comme ça, de cette façon-là?
Alors, elle symbolise plusieurs choses. Déjà, pour moi, le cancer a été, je vois ça comme un maître spirituel. Et dans ce roman, j'ai décidé que ça serait Émilienne, le maître spirituel. Mais c'est un peu, enfin, voilà, c'est un peu ce cheminement-là. Ensuite, Émilienne, c'est plein de choses. C'est, ça représente aussi le fait qu'on, sur le chemin de la maladie, on peut trouver des piliers qui ne sont pas forcément nos proches comme on l'imaginait. Et on peut se rendre compte que ça va être des personnes, des inconnus, qui vont être les personnes vraiment, je le redis, piliers dans cette expérience de vie qu'on traverse. Donc Émilienne, c'est un peu ça aussi. Et c'est aussi, pour moi, montrer tout le chemin de vie de ces personnes qui, forcément, acquièrent une sagesse que nous, plus jeunes, n'avons pas encore. Et que si on est en ouverture et dans l'échange avec ces personnes-là, qu'on a énormément à apprendre. Donc c'est aussi ça, Émilienne, c'est montrer cette sagesse-là de femme qu'elle transmet à cette jeune.
Émilienne, c'est quelqu'un qui a eu le temps de... On pourrait dire d'apprivoiser la mort, puisqu'elle est centenaire, enfin elle est plus que centenaire, elle va sur ses 102 ans. Et d'ailleurs, il y a un passage du livre que j'aime bien où elle explique ce qu'est la peur, en fait, que la peur, ce que fait la peur, quoi. Alors je vais vous lire un petit passage. Tu sais, ma fille, la peur, c'est la gangrène. La peur, c'est toujours lié à demain. Mais chaque jour suffit sa peine. Au lieu de perdre de l'énergie pour un futur qui sera ou ne sera pas, mets ton énergie dans maintenant. Le futur n'existe pas. Quand tu seras dans le futur, ça sera maintenant aussi. En fait, le passé et le futur n'existent pas. Seul le présent, le maintenant, existe. Si tu as peur, c'est que tu penses à demain au lieu de penser à maintenant, au lieu de vivre l'instant présent. Concentre-toi sur maintenant et tu n'auras plus jamais peur. Vis l'instant présent. Alors voilà, je ne sais pas si ça résume bien votre philosophie, mais c'est quand même ça, quoi, je pense. Hein.
Oui, c'est entièrement ça, oui, bien sûr.
Et vous étiez... est-ce que vous diriez qu'avant avant le cancer ou avant de faire ce métier d'aide à domicile, vous étiez dans la peur et que vous avez appris à ne plus avoir peur, non?
Avant ce métier, je dirais plutôt avant le cancer. En effet, je pouvais avoir des peurs comme tout le monde et je pense que j'étais dans une espèce de lutte contre plein de choses. J'essayais de résister et je voyais bien que le monde ne me correspondait pas et j'essayais de trouver un espace pour être bien. Donc j'avais plutôt un sentiment de lutte, alors que le cancer m'a apporté étonnamment une sorte d'apaisement, parce que du coup j'ai fait un énorme chemin intérieur, je me suis reconnectée à mon moi profond, je vais dire ça comme ça, et du coup maintenant en effet non, j'ai plus de peur, j'en ai encore, mais pas des peurs qui me mettent des freins en tout cas.
Et il y a une autre personne que vous rencontrez, enfin que le personnage pardon de Julie rencontre pendant cette maladie. Pareil, très étonnant. On se dit on est dans le 36e dessous et puis en fait elle rencontre l'amour et une sorte de prince charmant, on pourrait dire si on veut quoi. Enfin, et ça c'est, alors je sais pas si c'est du vécu pour vous, mais c'est quelque chose qui peut arriver, vous pensez?
Je pense que quand on vit une maladie comme celle-ci ou comme n'importe quelle expérience de vie difficile, ça peut être, je sais pas, un deuil, ça peut être n'importe quoi en fait. Je pense qu'à partir du moment où on vit une expérience de vie vraiment difficile et qu'on revient à soi et qu'on est en adéquation avec soi, qu'on est aligné avec soi, je pense qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus dans les belles rencontres, oui. Alors que quand on se brime ou quand on se force à être autre ou quand je pense qu'on n'est pas vraiment soi et donc on ne fait pas les bonnes rencontres. Donc oui, oui.
Ouais. Le contexte change aussi peut-être, bien sûr. Oui. Et comme vous dites, on prend plus de temps, finalement. On a plus de temps, de fait.
Plus de temps, et puis je crois que surtout, on ne veut plus perdre son temps. On se rend compte à quel point le temps est précieux, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas de quoi il fait demain, et donc on se concentre sur le présent. Et dans ces cas-là, je pense qu'on n'est pas dans la même... pas dans le même genre de rencontre, oui. On est dans des choses beaucoup plus authentiques et surtout beaucoup plus profondes.
Mais pour autant, on sait que ce type de maladie, ça peut faire peur aux autres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur, quoi. Enfin, au contraire.
Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont peur et on le ressent profondément. Et on nous renvoie ça. On nous renvoie énormément le fait qu'on sente un peu la mort, je crois que c'est ça. Donc on nous le renvoie énormément. Donc bien sûr, il y a énormément de gens qui s'écartent parce qu'on leur renvoie leur propre mort, en fait. Et il y a, je pense, énormément de personnes qui préfèrent mettre des œillères et se dire qu'ils mourront quand ils seront centenaires, alors qu'on n'en sait rien. Et du coup, ça renvoie tout d'un coup que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Et ça, c'est difficile pour tout le monde. Donc, il y a évidemment beaucoup de personnes qui s'éloignent parce que ça leur renvoie leur propre peur. Mais en dehors de ça, oui, au contraire, à partir du moment où on est dans l'accueil de ce qui se passe et qu'on est en train de vivre sa chrysalide, j'ai envie de dire, et qu'on s'ouvre à soi-même et à ce qu'on est réellement, je pense qu'on attire aussi des personnes qui sont pareilles dans une sorte de rayonnement à la vie, quoi.
Alors votre personnage, donc Julie, elle vit, bon ben voilà, elle vit son cancer. Enfin, c'est pareil, vous décrivez beaucoup tous les traitements, les effets secondaires. La pauvre, en plus, j'ai l'impression qu'elle cumule tous les effets secondaires possibles et imaginables. Est-ce que ça, c'est voilà, là, est-ce que je vais vous demander en fait, est-ce que c'est très différent de ce que vous avez vécu quand vous étiez malade, ou est-ce que vous avez, en gros, ce que vit Julie dans sa maladie, c'était à peu près ce que vous aviez vécu.
Parce que la partie médicale est la seule partie que j'ai absolument pas transformé de la réalité. C'est la seule partie. C'est vraiment mon vécu. Et ce choix-là, je l'ai fait pour montrer réellement ce que les femmes vivent. Parce que du coup, dans les réactions qu'on peut recevoir autour de soi, soit on va minimiser ce qu'on est en train de vivre pour pas inquiéter les gens qu'on aime, ou enfin pour pas que les gens prennent peur et s'éloignent, etc. Et puis pour pas recevoir leur propre peur, parce qu'on a déjà les nôtres à gérer. Donc je voulais que les personnes se rendent compte réellement de ce que c'est, oui. Après, tout le monde n'a pas autant d'effets secondaires, heureusement. Voilà, j'en ai eu beaucoup, c'est comme ça.
C'est pas une bonne, vous pouvez
le dire. Non, bah, on a tous des corps différents.
Et après, sur le contexte médical, dans le livre, je rappelle le titre, Le souffle de la salamandre, Gwenaëlle Le Quinf, j'ai l'impression que c'était assez froid quand même, le rapport avec la profession médicale, par rapport à d'autres témoignages que j'ai pu entendre, ou même par rapport aux autres patientes. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Alors, oui, j'ai pu... Enfin, dans le cadre du cancer, là, dans ce roman, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes aussi qui sont passées par là. Donc, j'ai essayé de parler de manière plus générale. Je n'ai pas parlé que de mon cas. Mais dans le milieu médical, toutes les personnes qui ont eu ce type de protocole de soins ont vécu des violences médicales, oui. Après, j'imagine aussi que ces personnes qui travaillent avec des cancéreux toute la journée, j'imagine qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à rester très humains, parce que, j'en sais rien en fait, je sais pas. Mais j'imagine qu'ils se font aussi happer parce que, pareil, eux, ils ont un manque de temps. C'est fou ce qu'ils doivent réussir à gérer dans une journée. Donc je pense qu'à un moment, ils deviennent un peu plus machines. Je pense qu'il y a des personnes qui probablement aussi se protègent en étant moins humaines, parce que sinon, au quotidien, je pense que ça doit être tellement dur à vivre pour eux. Donc c'est une manière de se protéger eux-mêmes. Mais du coup, nous, on ne vit pas ça tous les jours, toute l'année, toute la vie. Alors eux, c'est leur métier, ils ne voient que ça toute la journée, mais pas nous. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est difficile d'être... c'est une forme de violence et de maltraitance, oui, ouais. Ça c'est sûr. Mais pas que. Moi, j'ai eu un oncologue extraordinaire, quelqu'un de très philosophe, avec qui qui a pris d'ailleurs le temps avec moi d'avoir des échanges vraiment philosophiques autour de tout ça, et c'était passionnant, et il m'a aidée. Mais dans les femmes avec qui j'ai pu échanger, c'était pas forcément le cas. Et moi, j'ai vécu vraiment les violences qui sont décrites.
Alors notamment, oui, il faut préciser qu'en plus, comme Julie est jeune, elle a 32 ans, et je pense que c'est votre cas, enfin, vous aviez une trentaine d'années aussi.
J'avais 34, oui.
Ouais, et donc, on vous a proposé de sauvegarder vos ovules, c'est ça? À vous aussi, enfin, ça vous est arrivé dans la vraie vie.
Oui, oui.
Vos ovocytes, pardon. Et ça, vraiment, enfin, ça se passe de manière très...
Alors pour moi, ça s'est passé comme ça. Pour d'autres femmes, ça s'était mieux passé. Je pense que ça dépend des services, ça dépend de là où on est, ça dépend de plein de choses. Après, moi, j'ai eu de la chance du côté oncologue. Il y en a qui ont un oncologue moins humain. Enfin, voilà, on n'a pas toutes les mêmes difficultés dans le milieu médical, mais tout, on en rencontre en tout cas.
Oui, c'est ça. Oui, parce que là, donc voilà, il faut récupérer ses ovocytes parce qu'il y a une pression en plus si jamais elle veut avoir des enfants après. Voilà, c'est. Et vous, en fait, quand on vous a dit ça, quand on vous a dit, faudrait récupérer vos ovocytes parce que si vous voulez. Qu'est-ce que vous êtes dit en fait
Moi, quand j'ai su que j'étais malade, ma première peur n'a pas été la peur de la mort. Ma première peur a été le fait de ne pas pouvoir être mère.
D'accord, donc vous vouliez vraiment être mère.
Je voulais être mère et j'étais autour d'un projet d'enfant à ce moment-là. Donc la vie s'est vraiment écroulée. Donc c'était surtout ça qui m'inquiétait, moi, c'était de ne pas pouvoir porter la vie à mon tour.
Ok, parce que ça pourrait être juste un choix qu'on propose systématiquement. Et puis du coup, si vous n'étiez pas posé la question de l'enfant, ça peut être...
Alors c'est un choix qui est proposé systématiquement pour les femmes qui sont jeunes. Moi, j'ai des amis rencontrés dans le cadre du cancer qui ne voulaient pas d'enfants et qui ont été choqués de recevoir une forme de pression. Mais si, vous ne pouvez pas savoir après, mais si. Donc, alors qu'elles étaient très au clair sur le fait qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Maintenant, moi, c'était un désir très fort que j'avais.
Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé ou pas à traverser L'épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve, là, telle que vous le décrivez, là.
De vouloir un enfant ?
Non, de donner des ovocytes, enfin, de préserver des ovocytes.
Bah, moi, ça a été difficile, parce que du coup, le prélèvement s'est mal passé. Il y a eu, on nous injecte plein de choses pour développer tout ça. Et moi, ça a généré d'autres problèmes. Et du coup, j'ai eu qu'un ovocyte congelé. Et donc, c'est pas un plan B très, très bon. Donc, c'était plutôt une inquiétude pendant. Maintenant, je sais que mon corps va très bien et que... Et voilà.
Ouais. Ça se rajoute à la pression ambiante de toute façon.
Pendant la maladie.
Pendant
oui.
la maladie, ouais.
Et puis à un moment, en même temps, comme je vous disais dans le livre, c'est l'instant présent qui compte. Donc là, à un moment, j'ai aussi mis ça de côté en disant le plus important, là, ça va être d'affronter les traitements et de rester vivante. Et puis ça, on verra après ce qui se passe, où j'en serai.
Ouais, la vie est une question de priorité, comme on dit.
Exactement.
Et justement, c'est quoi pour vous l'essentiel ? Vous dites, votre personnage donc, veut vraiment revenir à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous ? Peut-être plutôt Gwenaëlle Le Cainf, alors, du coup.
Ce que je voulais montrer dans le livre par rapport au fait de revenir à l'essentiel, c'était vraiment le fait de se reconnecter à soi, ce que je disais un peu tout à l'heure, se reconnecter à soi, se reconnecter à son moi profond, et du coup, ne plus être happé par quoi que ce soit, mais vraiment vivre en adéquation avec ce qu'on est soi. Et ne plus être dans les attentes des autres, ne plus être capable de dire non. Et si on est capable de dire non, du coup, on est capable de dire des vrais oui. Et c'est tout ça l'essentiel. Du coup, qu'est-ce qui fait sens pour soi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est pleinement soi ?
Et votre personnage, alors l'histoire se passe non pas dans le Finistère, mais en Ille-et-Vilaine. Enfin, je ne sais pas si vous y avez vécu peut-être, non ?
Pendant le cancer, j'étais en Ille-et-Vilaine, oui.
Et elle est quand même bien connectée à la nature. Enfin, ça, c'est vraiment important, ça. C'est quelque chose qui, je suppose, vous touche personnellement.
C'est quelque chose qui a toujours été vrai pour moi et qui, du coup, s'est énormément renforcé pendant que j'étais malade. Et c'est quelque chose qui continue. Enfin, tous les matins, quand je me lève, je fais des rituels de remerciement à la terre. Enfin, je suis très connectée. Oui.
Et vous continuez à faire du vélo avec votre chien ?
Oui, alors ma chienne est très vieille maintenant, donc elle ne me suit plus à vélo. Mais oui, je continue de faire du vélo, oui.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui apprend maintenant, une femme qui apprend maintenant qu'elle a un cancer du sein ?
Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Qu'elle va vivre une belle chrysalide et qu'après elle ouvrira grand ses ailes et que sa vie sera belle.
Ouais, donc vous aussi, comme Muriel qu'on avait reçue précédemment, c'est quand même, vous diriez que c'est malgré tout une aventure humaine.
Ah oui, moi je vous dis, pour moi le cancer a été un maître spirituel, donc je... Après, évidemment, je m'en serais passée.
Oui, j'imagine.
C'est quand même... c'est fou, tout ce que ça entraîne, c'est un tsunami. Mais oui, ça a été un maître spirituel et je suis aujourd'hui heureuse comme jamais je l'ai été, oui.
Ah oui, et dans les rencontres, finalement, elle fait assez peu de rencontres, enfin, à part Emiliane, bien sûr, et son amoureux. Mais elle rencontre à la fin quand même une autre patiente, Julie... Et qui et j'ai été étonnée de voir qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre patientes avant plus haut dans le roman.
Oui, parce qu'en fait, au final, ça dépend des hôpitaux, mais moi, les chimios, j'étais toute seule dans une pièce. C'était pas des pièces mélangées. Les rayons, on est tout seul. En fait, le truc, c'est qu'aussi le cancer du sein touche. En moyenne, c'est plutôt des femmes qui sont ménopausées. L'âge moyen du cancer du sein, c'est 63 ans. Et du coup, les femmes jeunes, on en croise très peu dans les couloirs. On est seulement 4,5%, je crois, de l'ensemble des cancers du sein pour les moins de 40 ans. Du coup, on en croise très peu. Mm-hmm. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer via une association qui s'appelle la Maison de la Vie, où je suis allée. Et du coup, ça a été étonnant parce que ce séjour qu'on a fait, on n'était qu'entre femmes jeunes. C'était très surprenant, quasiment. Et du coup, c'est des femmes avec qui il y a eu un lien très fort et qui continuent à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très nourrissant.
Et le yoga, vous l'avez découvert aussi pendant votre cancer ?
Non, j'en faisais depuis longtemps.
D'accord. Alors, vous allez... le livre Le Souffle de la Salamandre est toujours en vente, bien sûr, et vous allez le présenter dans le coin. Vous allez nous raconter où ?
Oui, alors, vendredi qui arrive, là, le vendredi 14, je suis à 20h à la médiathèque de Quimère. Donc, je fais une présentation du livre, il y aura des lectures d'extraits, voilà. Ensuite, dimanche 16, là, je suis à Anvec dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, j'ai un stand où je vais présenter le roman.
Je précise que donc, voilà, c'est le 16 octobre, le dimanche. Il y a plein d'autres choses sur Octobre Rose à Anvec.
Oui, voilà. Et puis c'est des marches, des courses. Il y a beaucoup de choses et des animations autour. Et sinon, le dimanche 6 novembre, je serai au Salon du Livre à Châteaulin.
D'accord. Très bien, merci Gwenaëlle Le Cainf. Est-ce que je peux juste vous demander, mais vous avez le droit de dire non, de me dire de quoi va parler votre prochain roman, celui sur lequel vous travaillez ?
Du milieu carcéral.
du milieu carcéral. Vous ne l'avez pas connu quand même, le milieu carcéral?
Non, mais j'ai été bénévole longtemps dans une association qui s'appelle Les Courriers de Beauvais, donc qui est une association qui permet une correspondance entre les personnes incarcérées qui n'ont plus de lien avec l'extérieur. Et donc c'est des courriers, c'est vraiment une correspondance écrite. Et donc j'ai fait ça longtemps, et voilà, c'est un sujet qui me touche aussi profondément.
Et ce sera un roman également?
Un roman, oui. Mm-hmm.
Eh bien, merci beaucoup, et puis vous êtes la bienvenue pour votre prochain roman, en tout cas. À
merci.
Bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.